Voilà, donc, durant le mois de janvier, de février, une partie de février, on a parlé de l'importance justement de l'écoute de Dieu, de prendre le temps de s'arrêter pour entendre ce que le Seigneur veut nous dire. Et on veut vraiment, dans cette année 2023, être capable d'entendre justement la voix de Dieu, capable de nous donner, que Dieu nous donne ses instructions pour notre vie, pour celle aussi de l'Église. Et ce matin, on va continuer un peu sur la poursuite un peu de ce thème, pas de l'écoute, mais le pas qu'il demande de faire après l'écoute. Et comme le titre le dit, écouter Dieu pour lui obéir. On voit que le pas suivant après l'écoute, c'est l'obéissance. C'est se mettre en action, en avant pour obéir à notre Dieu. Parce que si on écoute Dieu nous parler, si on a compris ce qu'il attendait de nous, s'il nous a donné ses instructions, sa volonté, si on a compris à travers sa parole ce que nous devons faire, mais qu'on reste sur place en attendant d'avoir peut-être d'autres instructions, en attendant de peut-être d'avoir une autre confirmation ou d'autres choses, on n'accomplira pas ce que Dieu veut pour nous. Mais avant d'aller dans ce sujet, regardons brièvement justement quelques points que nous avons vus donc dans ces dernières semaines sur l'écoute. Premièrement, nous avions lu justement, rappelez-vous, Luc chapitre 10, verset 21, qui dit: Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. Donc, on a vu que Dieu s'est révélé non pas à des sages, non pas à des gens qui avaient plein d'instructions, qui connaissaient la parole, qui connaissaient tout ce que Dieu voulait, mais à des hommes et des femmes qui étaient disponibles. Des personnes qui étaient disponibles pour l'écouter. Des personnes toutes simples, dans l'humilité. Et c'est ça la bonté de Dieu, qui permet que justement chacun de nous, quelles que soient nos connaissances, quelles que soient nos vies, nous pouvons nous approcher de Dieu. Nous savons que Dieu peut se révéler à nous. On a pu le voir justement comment il s'est révélé à Marie, hein, à Joseph aussi. Il a aussi révélé à des étrangers comme le roi Mage, à des hommes et des femmes pieux comme Siméon et Anne. Donc, on voit que Dieu utilise toutes sortes de façons pour pouvoir se révéler à chacun de nous. Un point essentiel que nous avions vu, justement, c'est que les Écritures, la parole de Dieu, ne peut pas être comprise correctement sans la révélation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous pour nous permettre, justement, de pouvoir se révéler, révéler le Père, révéler la volonté, la bonté de Dieu. Et on avait lu justement ce chapitre de Jean, chapitre 10, versets 1 à 5, où on voit justement cette parabole que Jésus dit qu'il est le berger et que les brebis écoutent sa voix. On s'est rendu compte que le verbe écouter n'est pas au passé, n'est pas au futur, mais au présent. Les brebis écoutent sa voix. Et comme le dit aussi la traduction Semeur, dans le verset 4, il dit sa voix, donc la voix du berger, leur est familière. Les brebis reconnaissent la voix du berger parce qu'elle est leur familière, parce qu'il leur parle jour après jour. Ils sont capables de détecter que c'est vraiment la voix du berger. Et on a vu l'importance que pour nous aussi, il faut que la voix de Dieu nous soit familière, c'est-à-dire qu'on arrive de l'entendre régulièrement à travers la parole, à travers différentes façons comme nous l'avons déjà vu. Voilà pourquoi que nous devons justement être à l'écoute de Dieu. Parce que Dieu, Jésus-Christ, veut fonctionner comme notre Seigneur et notre Roi. Il veut nous parler. Il veut s'établir comme notre Seigneur. Il veut établir pleinement son royaume sur terre. Et il nous a choisis en tant que peuple de Dieu pour pouvoir le représenter. Dieu veut aussi nous fonctionner comme Père, c'est-à-dire comme une personne qui est là pour nous encadrer, qui est là pour être avec nous, pour nous assurer de sa grâce, de sa bonté. Il veut aussi avoir. Nous avertir du danger. Il veut nous réconforter quand ça va mal. Il veut conseiller ses enfants quand ils ont besoin de direction. Il veut aussi nous discipliner quand on a besoin. Il veut nous guider. Il veut nous enseigner quelle est sa volonté. Il veut nous motiver quand peut-être on a besoin un peu, quand on se relâche, quand on a besoin d'encouragement. Il veut aussi nous pardonner. Donc, tout plein de choses que Dieu, en tant que Père, veut nous enseigner, veut nous parler. Voilà pourquoi qu'on a besoin d'être à son écoute. Mais il désire que justement cette relation soit réciproque. Il veut que nous puissions aussi lui parler à travers la prière, à travers une relation avec lui, et il veut aussi que nous puissions l'écouter, de pouvoir comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Alors ce matin, peut-être que vous allez entendre des sujets, des points, et dans ces prochains dimanches, que peut-être ça va peut-être vous surprendre. Mais laissez le Saint-Esprit travailler, laissez le Seigneur travailler dans les points qui vous seront donnés. Donc aujourd'hui, on va voir la première partie de ce thème de l'obéissance. Et le meilleur exemple, c'est dans la parole. On voit tellement de personnages, des hommes et des femmes qui ont obéi à Dieu, qui ont obéi à certains pourcentages, qui ont obéi, mais qui ont fait de leur façon. Et on va voir aussi c'est quoi les conséquences, quels ont été les résultats, justement, par rapport à leur obéissance. Le premier point qu'on veut regarder aujourd'hui qui dit « l'obéissance vaut mieux que la foi ». L'obéissance vaut mieux que la foi. Alors, je vais vous expliquer pourquoi on le dit de cette façon. Et on va ouvrir notre Bible dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Donc, Jésus est en train de dire des choses à ses disciples. Il parle des occasions de chute et du pardon. Et dans le verset 5, c'est comme si on passe à un autre sujet. En tout cas, dans nos traductions françaises, c'est comme si les quatre premiers versets, Jésus parle, et ensuite le cinquième verset, on sort comme dans un autre paragraphe. Il dit, les apôtres dirent au Seigneur, augmente notre foi. Peu de versions en français, justement, ont mis le mot qui relie le verset 4 au verset 5. Dans la version originale en grec, il y a la conjonction « kai » qui se traduit par « est » ou « mais » qui relie justement le verset 5 à ce que Jésus est en train de dire dans les quatre premiers versets. Regardez dans la version Darby. La version Darby, c'est une ancienne version française qui est très proche littéraire justement de la traduction originale. Il dit « et les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi ». Donc, les disciples étaient bouleversés par les choses difficiles que Jésus leur demandait, comme le pardon radical. Alors, ils ont demandé, eh bien, augmente notre foi pour qu'un tel pardon, et parce que le tel pardon est trop dur pour nous. Mais Jésus leur disait simplement d'obéir. Ici, le pardon n'est pas une question de foi, mais d'obéissance. Souvent, Dieu peut nous demander des choses à faire. Et ce qu'il attend de nous, c'est que nous obéissons tout simplement. Ce n'est pas toujours des questions de foi. Est-ce que j'ai assez de foi pour pardonner à mon ami qui est à côté de moi? Est-ce que j'ai assez de foi pour faire ce que Dieu me demande? Et on va prendre justement l'exemple avec la guérison des 10 lépreux dans Luc chapitre 17. On va lire Luc chapitre 17, versets 12 à 19. Luc chapitre 17, versets 12 à 19. Voici ce qu'il dit. À l'entrée d'un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et se mirent à supplier à haute voix. « Jésus, Jésus, maître, aie pitié de nous !» Jésus les vit et leur dit, « Allez vous montrer au prêtre. » Pendant qu'ils allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas, en louant Dieu à pleine voix. Il se prosterna aux pieds de Jésus, face contre terre, et le remercia. Or, c'était un Samaritain. Jésus dit, « Ils sont bien 10 qui ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont donc les 9 autres? » Il ne s'est donc trouvé personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu. Puis s'adressant à ce Samaritain, il lui dit, « Relève-toi et va, parce que tu as eu la foi en moi, tu es sauvé. » Parce que tu as la foi en moi, tu es sauvé. Qu'attendaient ces lépreux en venant vers Jésus? Ils avaient entendu parler que Jésus guérissait. Et ils ont dit, ben, nous, on veut être aussi guéris de notre lèpre. Et Jésus va simplement leur dire, allez voir les sacrificateurs. À ce moment-là, les sacrificateurs étaient un peu comme des médecins, entre guillemets. C'est lorsqu'on avait une grave maladie, les gens devaient aller vers eux pour voir s'ils étaient réellement guéris. Puisque la lèpre ne permettait pas d'être avec le peuple, il fallait l'autorisation du prêtre, du sacrificateur, pour que les lépreux puissent revenir, qui étaient guéris, revenir auprès du peuple. Donc, ces 10 lépreux auraient pu dire à Jésus, « Mais guéris-nous sur place. Seigneur, tu l'as déjà fait dans le passé, Dis un mot, puis on va te guérir. Mais là, Jésus veut voir leur obéissance à la parole qu'il donne. On voit qu'ils ne discutent pas d'autres alternatives. Ils sont simplement en train d'obéir. Et ils furent guéris en chemin. Donc, l'obéissance, dans ce cas, était le facteur déterminant, justement, de la guérison. Dans d'autres cas de guérison, c'est vrai que des fois, la foi a été donnée comme un acte de foi. Mais ici, on voit que c'est l'obéissance. C'est un chemin qu'ils furent guéris. C'est lorsqu'ils se mirent en route, qu'ils ont été de l'avant, qu'ils ont vu le miracle de la guérison. Mais regardez plus loin, justement. Il y a un seul des 10 lépreux, lorsqu'il voit qu'il est guéri, retourne sur ses pas parce qu'il veut reconnaître Jésus comme le Seigneur et Sauveur. Il veut le remercier, le glorifier pour sa guérison. Et là, on voit au verset 19 qu'il dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » À la différence peut-être des 9 autres, ils ont été guéris physiquement, mais ils n'avaient pas encore reconnu Jésus comme le Seigneur et Sauveur. Mais cet homme, lorsqu'il a été guéri, il a eu cette foi pour revenir et pour pouvoir remercier Dieu. Donc cet homme a été guéri par l'obéissance et la foi l'a fait revenir vers Jésus pour le remercier, le glorifier, pour voir le miracle dans sa vie. Donc si on revient au premier texte que nous avons lu dans Luc 17, la demande de Jésus était d'être prêt à pardonner à une autre personne, même 7 fois par journée. Et les disciples ont trouvé que c'était trop difficile de mettre en pratique. Voilà pourquoi ils ont dit « Augmente-nous la foi, donne-nous plus de foi pour que nous puissions faire ce pardon. » Mais Jésus ne leur a pas dit « Je vais vous augmenter la foi pour que vous ayez plus de pardon. » Il leur a dit « obéissez simplement. Je vous dis de pardonner. » Ce n'est pas une question de foi, ce n'est pas une question de logique, de compréhension. Je vous le dis, pardonnez, même si plusieurs fois par jour. Obéissez et vous allez voir l'effet, l'impact que ça va avoir. C'est comme pour nous aussi la même chose. On doit obéir, comme les 10 lépreux, à l'ordre de Jésus de faire telle chose, de faire la volonté que Jésus nous donne. Ce n'est pas une question de foi, de se dire, est-ce que j'ai assez de foi pour faire ce que Dieu me demande de faire? Est-ce que ma foi va me permettre d'obéir à la volonté de Dieu? Oui, la foi va nous accompagner. Oui, la foi va nous aider à aller de l'avant. Mais lorsque Dieu nous dit, vas-y, obéis, fais ceci, nous devons le faire. Lorsqu'on reçoit les instructions de Dieu, lorsqu'il parle, on doit simplement obéir. Faire sa volonté sans avoir à se poser la question si j'ai assez de foi pour être capable de faire de ces choses. Le Seigneur veut nous donner ses instructions. Il sait qu'on est capable de l'accomplir. Il ne va pas nous donner un ordre ou une instruction s'il sait qu'on n'est pas capable de le faire. Il nous connaît, il est notre Père. Il nous a créés, il sait ce qu'on est capable de faire. C'est vrai que des fois, il veut nous pousser peut-être à obéir, à agir, même si peut-être on ne sait pas très bien. Et voilà pourquoi qu'on avance dans l'obéissance et ensuite la foi vient nous accompagner pour avancer, pour aller de l'avant. Regardons justement un texte dans Jacques qui veut nous interpeller à ne pas simplement écouter, mais à mettre en pratique ce que nous avons entendu. Jacques, chapitre 1, versets 21 à 25. Jacques, chapitre 1, versets 21 à 25, il dit « Débarrassez-vous de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement, ne vous contentez pas de parler. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. » Ce texte de Jacques nous donne l'exemple du miroir que nous pouvons aller devant lorsqu'on se réveille. Et de voir si peut-être on est mal coiffé, si peut-être on a besoin de se raser pour les hommes, si on a besoin de s'habiller correctement. Mais si on se regarde, on se scrute dans le miroir, et aussitôt on part, puis on continue comme rien n'était, si on ne se coiffe pas, si on ne s'habille pas, si on ne se rase pas, les gens autour de nous, les collègues vont nous dire « Hey, tu t'es regardé dans le miroir, mais tu n'as rien fait. » On oublie que le visage qu'on avait. Je crois que l'exemple de Jacques est tellement simple à comprendre. nous montre clairement que la même chose pour la parole. Si on fait simplement de l'écouter, c'est important de l'écouter, c'est important de recevoir les instructions de Dieu. Mais après, il faut l'appliquer, il faut la mettre en action. Cet exemple nous permet de voir qu'au verset 25, que celui justement, que celui qui reçoit cette parole, qui la met en pratique, il est heureux, il est heureux. Regardez le verset 25. « Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite, qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. » La parole de Dieu ou l'écoute de Dieu ne suffit pas dans notre vie. Il faut la mettre en pratique. Il faut entendre le Saint-Esprit, c'est vrai. Il faut qu'il nous donne des instructions. Mais par la suite, il ne faut pas rester sur place à attendre d'avoir plus de foi comme nous l'avons vu auparavant. Ou d'aller faire dans une autre direction comme le prophète Jonas. Rappelez-vous Jonas, hein? Il avait reçu une instruction précise. Va à Nénive, va proclamer que si le peuple ne change pas, il sera détruit. Et qu'est-ce que fait Jonas? Il ne veut pas obéir. Il préfère de prendre un bateau à l'opposé justement de Nénive. Et Dieu est obligé de pouvoir amener une tempête, de le faire chavirer, de le faire tomber dans l'eau, de le faire même engloutir par un poisson pour que Jonas reconnaisse qu'il s'est trompé et qu'il devait obéir. Mais comme le dit le verset 25, si on demeure attaché à la parole de Dieu, si on l'écoute et si on les met en pratique, cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait, sera dans la joie, sera dans la paix. On veut tous d'être heureux, on veut tous être dans la joie, dans la paix avec le Seigneur. Mais pour cela, il faut que nous puissions obéir. Le deuxième aspect de l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et là, on va voir un exemple du roi Saül. Ouvrons notre Bible dans 1 Samuel 15. On va voir comment que ce roi qui avait bien commencé, qui était tout petit, que Samuel l'avait oint au roi qui était tout jeune. Comment qu'il avait suivi le Seigneur? Mais à un moment donné, il a commencé à prendre lui-même ses décisions. Malgré les instructions de Dieu, il l'a fait aussi selon ce que son cœur pensait. Là, dans le chapitre 15, Samuel va vers Saül et lui dit, « Maintenant, tu vas aller te battre contre le peuple Amalek. » Et voici les instructions très précises. Extermine tout, autant tous les humains, les hommes, les femmes, les enfants, les animaux, tous les animaux. C'est vrai, c'est peut-être un peu dur comme parole, mais c'est ce que Dieu donna à Saül. Verset 3. Maintenant, va les attaquer et voulez-moi en les exterminant totalement avec tout ce qui leur appartient. Sois sans pitié et fais périr hommes et femmes, enfants et bébés, bœufs, moutons, chèvres, chameaux et ânes. Pourquoi que Dieu donne des instructions précises? Regardez dans le verset 2. Voici ce que déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. J'ai décidé de punir les Amalécites pour ce qu'ils ont fait au peuple d'Israël en se mettant au travers de sa route quand ils venaient d'Égypte. Rappelez-vous qu'à un moment donné, quand le peuple montait pour aller dans le pays promis, le peuple Amalek a barré la route, ne voulait pas les laisser passer dans leur pays. Ils ont voulu faire la guerre aussi donc à Israël. À cause de la méchanceté, Dieu donne un ordre précis de toutes les exterminer. Alors, si vous regardez la suite du chapitre 15, on voit que Saül va convoquer immédiatement toute son armée pour aller attaquer Amalek, tuant tout le monde. C'est cela? Tous, sauf le roi Amalek. Pourquoi il n'a pas tué le roi? On peut peut-être poser la question. C'est vrai que dans ce temps-là, lorsque un peuple allait en guerre, celui qui avait conquis le peuple ou le territoire revenait avec le roi pour pouvoir le démontrer, le parader dans les rues de la ville pour montrer qu'il avait été soumis, qu'il avait été plus fort que ce roi. Mais Saül a fait aussi autre chose de différent de l'ordre qu'il avait reçu du prophète Samuel. Il tua toutes les bêtes, des milliers Mais il épargnait le meilleur des moutons, des bœufs, des agneaux, tout ce qui était bon. Et voici pourquoi il dit, il a donné à son peuple afin qu'il puisse présenter des sacrifices à Dieu. N'est-ce pas quelque chose de positif? Il garde le meilleur des animaux pour offrir un sacrifice de reconnaissance, de louange à Dieu. On pourrait dire qu'à ce moment-là, que le roi Saül est un roi qui est pieux. Il conserve le meilleur du bétail. Quelle est la réaction de Dieu face à ce que Saül vient de faire avec le roi Malek et les meilleurs animaux? Regardez 1 Samuel, chapitre 15, versets 10 et 11. Il dit à Samuel, « Je désire d'annuler ce que j'ai fait en établissant Saül roi, car il s'est détourné de moi et n'a pas tenu compte de mes ordres. » Samuel en fut bouleversé et implora à l'Éternel toute la nuit, tellement parce qu'il voyait que justement Dieu avait rejeté Saül. Et Samuel implore toute la nuit en priant, « Seigneur, reviens sur ta décision. Donne ta grâce à ce peuple et à ce roi. » Alors Samuel va retrouver justement Saül pour un compte-rendu de la bataille. Et voici ce que le roi va dire au verset 13. « Finalement, Samuel rejoignit. Saül l'aborda par ces mots, « Que l'Éternel te bénisse, j'ai exécuté l'ordre de l'Éternel. » Incroyable, hein? Saül dit, « Que l'Éternel te bénisse, j'ai exécuté l'ordre de l'Éternel. » Pour lui, il croyait qu'il avait fait l'ordre, qu'il avait fait le meilleur pour son peuple. Je pense que Saül était sincère dans sa réponse. Peut-être qu'il n'a pas exécuté à 100%, peut-être juste à 99%, mais pour lui, il avait fait. Mais voici justement la réponse du roi, lorsque Samuel interroge pour dire, mais qu'est-ce qui se passe là? J'entends des beuglements, des animaux, des moutons, des bœufs, qu'est-ce qui se passe? Et voici là, au verset 15, la réponse de Saül. Ils les ont ramenés de chez les Amalécites, car les soldats ont épargné les meilleures bêtes parmi les moutons et les bœufs pour les offrir un sacrifice à l'Éternel, ton Dieu. Le reste, nous l'avons totalement détruit. Saül avait bien commencé comme roi. Lui qui était justement qu'un simple homme, qui ne voulait pas devenir roi, mais que Samuel était cherché. Dieu l'avait oint d'un esprit particulier pour qu'il puisse devenir le premier roi. Mais à un moment donné, il a pris de l'assurance. Il a décidé comme roi qu'il pouvait avoir des droits, qu'il pouvait décider même à la place de Dieu. Rappelez-vous quelques justement chapitres auparavant où Saül attendait justement Samuel. Avant d'aller à la guerre, généralement le sacrificateur ou le prophète venait pour bénir le peuple, pour pouvoir aussi préparer le peuple à la bataille. Et Samuel tardait à venir. Pendant 7 jours, ils ont attendu. Puis à un moment donné, les gens commencent à avoir peur, se commencent à s'enfuir devant l'ennemi. Et là, le roi Saül, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ben, moi je suis roi, je vais faire le sacrifice à la place du prophète ou du sacrificateur. C'était un péché, il le savait. Saül décide même de se repentir. Verset 24-25. Alors Saül répondit à Samuel, j'ai péché car j'ai trop transgressé l'ordre de l'Éternel et tes instructions. Parce que j'ai eu peur de mécontenter mes soldats, j'ai cédé à leurs demandes. À présent, je t'en prie, pardonne ma faute et reviens avec moi pour que je puisse me prosterner devant l'Éternel. On connaît que Dieu est un Dieu de miséricorde qui est là pour pardonner. Et comme on s'en est tout à l'heure, on a vu que Samuel a prié, a imploré Dieu durant toute la nuit pour pardonner à Saül. Mais dans cet événement-là, Saül n'a pas reçu le pardon de Dieu. Alors, on pourrait discuter, mais est-ce que peut-être il a mal prié Samuel? Est-ce que la repentance de Saül était sincère? Pourquoi que Dieu ne l'a pas pardonné? Il y a d'autres récits dans la parole où on voit que les gens font des fautes, même plus graves, et que Dieu l'aura pardonné. Ça appartient à Dieu. Saül a justifié la non-obéissance, justement, par le mécontentement de ses soldats et pour agir comme les autres peuples en gardant le roi vivant comme un trophée. Ils voulaient apporter un sacrifice de reconnaissance à Dieu pour la victoire. Ils auraient très bien pu prendre leurs propres animaux. Mais ils ont dit, ben, c'est plus facile de prendre les meilleurs animaux de nos ennemis au lieu de prendre nos propres animaux pour pouvoir les sacrifier. Prochain dia. Et voici la réponse de Samuel, qui est aussi pour nous au verset 22. Au verset 22, Samuel lui dit alors, « Les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers. » Nous pouvons dire que les intentions peut-être de Saül étaient bonnes, puisqu'il veut offrir le meilleur des animaux comme sacrifice. Mais ce n'étaient pas les instructions que Saül avait reçues de la part de Samuel. L'obéissance à ce que Dieu demande doit être complète, et pas juste quand ça nous arrange, ou lorsque on pense vouloir faire plaire à Dieu à notre façon. Dieu nous demande d'obéir à la parole qu'il nous donne, pas à moitié, pas même à 99%, mais à 100%. Le défi, c'est que lorsque nous péchons, le Saint-Esprit nous convainc nos cœurs que nous sommes dans l'erreur. Mais si on ne se repent pas, en voie de tromperie, justement, commence à se former sur notre cœur. Et ça fait réduire l'effet de conviction de péché et le remplace par un raisonnement humain. On voit ça des fois aussi dans notre conscience. À force de peut-être tolérer le péché, à force de pas écouter Dieu, de faire à notre manière, on n'entend plus Dieu. On n'entend plus les instructions complètes de Dieu. On le fait à notre manière. L'Esprit de Dieu n'arrive plus à nous convaincre. C'est notre raisonnement, notre esprit humain qui parle. Et comme l'exemple de Saül, on peut donner une bonne excuse en disant qu'on veut changer, on veut faire quelque chose dans la volonté de Dieu, pour plaire à Dieu comme ce sacrifice de louange, de reconnaissance. Mais si nous n'obéissons pas, même si c'est à 99%, ce n'est pas l'obéissance que Dieu veut pour nous. Il a besoin qu'on soit obéissant à 100%. Il veut que nous puissions l'écouter et ensuite le mettre en pratique, la volonté, l'ordre qu'il nous a donné. Il semble des fois que dans nos vies, rien ne va. Il y a comment, des fois, on pourrait dire un grain de sable dans l'engrenage. C'est peut-être justement parce que nous n'obéissons pas entièrement à ce que le Seigneur nous demande de faire. Et c'est vrai que, fur et à mesure que nous n'obéissons pas à 100%, il se peut qu'il arrive d'autres choses dans notre vie. Regardez qu'est-ce qui s'est passé avec Saül. En Samuel, chapitre 16, verset 14. En Samuel, chapitre 16, verset 14. Lorsque Samuel alla oindre un nouveau roi, c'est-à-dire David, qu'est-ce qu'il a dit? L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, tandis qu'un mauvais esprit envoyé par l'Éternel se mit à le tourmenter. Depuis ce jour-là, Saül a eu ce mauvais esprit. Et on sait que David a été plusieurs années à la cour du roi pour apaiser justement Saül, qui était tourmenté. Et à un moment donné, même, il a voulu tuer le futur roi David. Il a même tué des innocents, Saül, à un moment donné. La spirale vers la tourmente, vers la destruction, est commencée pour Saül. Saül avait bien commencé son règne. Il avait été inspiré, il avait reçu l'Esprit de Dieu sur lui. À un moment donné, il a été influencé par ses propres décisions au lieu d'obéir à Dieu. Notre désobéissance, justement, nous ouvre la porte à notre ennemi, Satan, qui vient s'installer petit à petit pour nous détourner de Dieu et de sa volonté. Et on a besoin de le reconnaître, on a besoin de s'humilier pour demander le pardon et la grâce de Dieu afin d'être acheté. Alors courbons maintenant notre tête et regardons pour nous. Est-ce que c'est possible que Dieu nous a donné un ordre, que Dieu nous a donné sa volonté, que Dieu nous a donné des instructions à travers sa parole, à travers peut-être, à travers son esprit, à travers une autre personne, par différentes manières comme on l'a vu aussi durant le mois de janvier. Mais est-ce que c'est possible qu'on a reçu ces instructions, mais qu'on n'a pas obéi entièrement? Peut-être on a dit, Seigneur, oui, je vais le faire, mais attends, j'ai d'autres choses à faire avant. Ou Seigneur, je vais le faire à moitié parce que je pense que moi, je vais peut-être faire une autre alternative, un autre chemin. Ou Seigneur, peut-être comme Saül, ben oui, je vais t'obéir, mais je vais faire à ma manière, puis c'est encore pour t'obéir, pour te louer, pour t'adorer, pour faire un sacrifice de louange, de reconnaissance. Je peux venir le dimanche, je peux louer le nom Seigneur pendant la semaine, dans mon cœur, en sachant que dans mon cœur, je n'ai pas obéi au Seigneur. Le Saint-Esprit veut nous interpeller encore ce matin. pour nous dire de l'importance de l'obéissance, de l'importance de l'écoute, puis ensuite d'obéir. Seigneur, je reconnais ce matin que c'est vrai que ce n'est pas facile de t'obéir à tout moment, à tes instructions, à ta parole. Nous restons des humains qui souvent encore sont baignés encore dans le péché, dans l'orgueil de la vie, dans nos façons d'agir en tant qu'humains. Mais Seigneur, aide-nous à être soumis entièrement à toi. Aide-nous à obéir. Pas juste à 40, 50%, même à 90%, mais à 100% à toi, à ce que tu nous dis. Tu nous as dit dans la parole dans Jacques que ta parole, c'est comme si lorsqu'on se voit dans un miroir, si on se voit comme cela et on oublie comment on est, puis qu'on part, on n'a rien appris. Si on lit ta parole, Seigneur, si on l'écoute, si on en comprend ce qu'elle veut dire, mais qu'on ne la met pas en action, on ne la met pas en pratique, ça ne la vaut rien. Mais tu dis dans ta parole, justement, que lorsque, justement, les hommes et les femmes scrutent cette loi parfaite, c'est-à-dire ta loi qui nous donne la vie, la loi qui nous permet de vivre avec toi, lorsqu'on scrute cette loi, lorsqu'on la met en pratique, alors nous allons vivre des jours heureux. Nous allons vivre une vie de paix, de joie. Nous voulons te remercier pour cet avertissement encore ce matin de l'importance d'obéir. Permets, Saint-Esprit, que tu puisses nous révéler peut-être à notre cœur, à notre esprit, peut-être un pas ou quelque chose qu'on devait faire pour toi. Une parole que tu nous avais donnée, une instruction que tu nous avais transmise et qu'on n'a pas obéi entièrement. Permets qu'on puisse s'humilier. Permets qu'on puisse te demander ta grâce et ton pardon afin de ne pas être rejeté comme Saül l'a été. On a besoin encore de ta grâce. On a encore besoin de comprendre, de mieux cheminer, de mieux grandir avec toi. Alors on veut juste t'adorer, te louer toi seul. C'est toi qui nous as donné la vie, c'est toi qui nous accompagne, c'est ton esprit qui est en nous, qui nous révèle le Père, qui nous permet de connaître ta volonté, qui nous permet de pouvoir grandir dans le chemin de la vérité. Alors aide-nous, nous, à obéir, à ne pas discuter, à ne pas simplement croire que c'est un acte de foi, à ne pas croire à croire d'autres choses, mais simplement obéir à ta parole, obéir à ce que tu veux nous dire. Et nous allons voir le fruit du travail que tu vas faire en nous. Je te prie, Seigneur, pour chaque personne ici présente, ceux qui sont sur Zoom, sur YouTube, que tu puisses, Seigneur, les diriger cette semaine. Que tu puisses leur montrer encore que tu as un chemin pour eux. Que tu as encore, Seigneur, une parole que tu veux leur donner. Que tu t'attends à ce qu'ils t'obéissent. Donne-leur la force de le faire. Donne-leur la conviction que c'est le temps de le faire dans le moment que tu vas leur donner. Alors merci, merci parce que nous savons que tu vas nous accompagner, tu vas nous guider, tu vas continuer de nous affermir dans l'appel que tu nous donnes, dans la volonté que tu as pour nous. Alors merci pour tes grâces et tes bontés, merci pour ta direction que tu nous donnes, merci parce que tu continues de nous parler, merci Seigneur parce que tu continues de donner ta force à travers l'Esprit Saint pour nous permettre d'avancer, d'obéir à ta voix. Nous voulons Seigneur aller avec cette assurance que nous sommes en toi et ce que tu nous demandes de faire, tu vas l'accomplir pour le bien de chacun de nous, pour ta gloire uniquement à toi. Merci pour tout, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses continuer mettre ta grâce, ta paix, ta joie en chacun de nous et qu'on puisse continuer d'obéir, d'avancer avec toi. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous en prions. Amen.